Je présente aujourd'hui notre conférencier. Il s'agit de Jean-Pierre Orfeuille, qui est né en 1949. Il est comme formation ingénieur des mines de Paris, donc c'est un scientifique de formation, docteur en statistique de l'université Paris 6. Sa carrière, c'est une carrière d'abord d'analyse statistique au centre de géostatistique de l'école des mines. Puis, à partir de 1977 jusqu'en 1998, il a rejoint l'Institut national de la recherche sur les transports et leur sécurité. Il a animé aussi en même temps la division économie de l'espace et de la mobilité de cet Institut national de la recherche sur les transports et leur sécurité. Et il est, depuis 1998, chercheur et professeur à l'Institut d'urbanisme de Paris de l'Université de Paris 12. Donc, vous l'aurez compris, ses travaux concernent la connaissance des pratiques de mobilité et de leur évolution, fondées au départ sur, et je pense que toujours, on va le voir, sur les analyses statistiques, la compréhension des facteurs sous-jacents aux dynamiques parmi lesquels la vitesse joue un rôle important. Ces publications, j'en dis quelques mots, 1 milliard de déplacements par semaine, la mobilité des Français, paru à la documentation française en 1989, avec une version, je vois, en anglais, A Billion Trips a Day, Tradition and Transition in Urban Mobility Patterns. Je suis l'automobile, édition de l'Aube en 1994, Les limitations de vitesse en collaboration aux éditions Hermès, 1998, et enfin, La mobilité, analyse, représentation, controverse, Université de Paris 12 en 1999. Il va donc nous parler de transport, vitesse, énergie. Merci.
Merci Monsieur Michaud, bonjour à toutes et à tous et merci de consacrer quelques heures dominicales à un thème controversé comme celui des transports. Controversé, donc il faut avoir quelques petits points de repère pour l'introduire. Je dirais simplement que chacun de nous dispose d'un niveau de mobilité très, très élevé, sans commune mesure avec celui dont on peut disposer, pour ne prendre que deux exemples, Louis XIV ou Napoléon. Il est en moyenne 2 à 3 fois plus... Je crois que vraiment il y a un problème. Il est en moyenne 2 à 3 fois plus élevé que celui qu'ont connu nos parents à l'époque où ils avaient notre âge. Il est bien sûr des pays où il est encore plus élevé, et c'est le cas des États-Unis. Il y a des pays où il est beaucoup plus faible, par exemple en Chine. En gros, on se déplace sur des distances 10 fois plus faibles que celles que nous connaissons aujourd'hui. Bien entendu, il ne faut pas oublier que nous ne sommes pas les seuls à nous déplacer. Il y a aussi des marchandises qui se déplacent. Et quand on regarde le trafic mondial de marchandises, et si on retient une unité qui est la tonne kilomètre, alors la tonne kilomètre, c'est évidemment quelque chose d'un peu abstrait, mais dites-vous qu'un jeune qui entrait au service militaire il y a une vingtaine d'années, on lui faisait porter un sac de 50 kilos sur 20 kilomètres. Ça fait une tonne kilomètre, c'est en gros ce qu'on peut faire humainement dans la journée quand on est jeune et bien portant. En gros, eh bien, le système de transport mondial fait que nous avons chacun, chaque être du monde, chaque habitant du monde, y compris en prenant ceux du monde le moins développé, nous avons à peu près 10 esclaves mécaniques, 10 jeunes du contingent comme ça, pour transporter le pétrole, le charbon, mais aussi les avocats, les tomates fraîches et les haricots du Burkina Faso que vous aurez peut-être dans votre assiette ce midi. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est comment s'est constitué au fil du temps et de l'histoire cet espace de mobilité ? Quels ont été les rôles des représentations de la vie en société ? Des volontés politiques, des technologies et des stratégies et des technologies et énergies disponibles. Quelles ont été les conséquences de cet accroissement de la mobilité? Sur quoi? Eh bien, sur nos territoires du quotidien. Comment ils se sont modifiés? Comment se sont modifiées nos villes? Quel a été le rôle de la vitesse et des transports dans ces modifications? Mais aussi sur des enjeux plus globaux, comme ceux des consommations d'énergie ou de ce qu'on appelle les émissions de gaz à effet de serre, qui concernent, dont vous savez qu'elles sont susceptibles d'induire des changements climatiques. À quoi doit-on s'attendre demain? Quels seront les chantiers, si l'on veut, du 21e siècle? Voilà les quelques questions que je voudrais essayer de traiter avec vous ce matin, dans une perspective à la fois en partie historique et mondiale. C'est évidemment très, très ambitieux. Ça supposera de faire un certain nombre de raccourcis. J'espère que vous voudrez bien les excuser. Je vais tenter de structurer l'exposé autour de quelques idées-forces. La première idée-force que je voudrais vous soumettre, c'est que la mobilité au sens de la mobilité de masse et de temps de paix est une idée relativement neuve, et là à peu près 2 siècles ou 2 siècles et demi. Elle date en gros de l'époque des Lumières, et elle est donc antérieure aux grandes révolutions technologiques qu'ont connu le système de transport. Alors dire que la mobilité est une idée neuve, ça peut évidemment choquer. Bon, on a tous en tête les grandes invasions, les voyages de Marco Polo, Ibn Battuta ou Magellan. Mais ce dont nous devons prendre conscience, c'est que dans le monde tel qu'il était au XVIIIe siècle, le fondement de la vie en société était l'appartenance communautaire. Le modèle économique et social dominant était l'appartenance communautaire. Et de ce fait, on est quelque part, on est donc de quelque part, on appartient à l'environnement et à la communauté où l'on a vu le jour. Il y a évidemment des circulations, c'est bien clair, il y a des abbés, des pèlerins, des marchands, des brigands, des collecteurs d'impôts, des banquiers. Toute une série de personnes fréquentent les routes, mais la masse de la population est paysanne. Pour elle, la communauté est structurante du lien social, et tout échappé hors de cette communauté risque de se transformer en vagabondage. Et ce vagabondage, dans toute l'Europe, est très sévèrement réprimé. La peine de mort est applicable et elle est appliquée. C'est au fond dans le domaine philosophique avec des gens comme Montesquieu, ou dans le domaine plus socio-économique avec des gens comme Turgot et Adam Smith, qu'un changement va se produire. Les philosophes nous disent au fond l'horizon qui borne nos jours borne aussi notre esprit. Turgot et Adam Smith se diront qu'après tout, on peut remplacer ce modèle de l'appartenance communautaire qui est en crise. Il est en crise parce que les terres changent de main et que de plus en plus de paysans sont au fond hors d'une légitimité de production. Ce modèle qui entre en crise, eh bien, on propose de le remplacer par celui du contrat, du marché, de l'échange qui n'est plus fondé sur l'interconnaissance des hommes. C'est au fond ainsi que naît l'idée de mobilité. Cette idée de mobilité devient un droit à la mobilité avec des évolutions, par exemple au Royaume-Uni, une révolution en France, la Révolution française. Et ce droit, qui est pour l'instant un droit relativement formel, va se transformer en une possibilité avec... Eh bien, avec ce qu'apportent les technologies de déplacement qui vont faire des progrès très, très importants au cours des siècles. Alors, la deuxième idée, eh bien, c'est qu'à partir du XIXe siècle, une vague d'innovation sociale et de révolution technologique va créer à chaque fois un nouvel espace de mobilité. J'insiste sur cette notion de nouvel espace de mobilité parce que au fond, chaque technologie ne sera pas seulement concurrente des précédentes, elle va créer, comme on va le voir, son propre marché. Alors, pour prendre la mesure du changement, je vous rappelle simplement cette phrase de Valéry qui disait « Les armées de Napoléon se déplaçaient à la même vitesse que les armées de Jules César ». Bon, ce n'est pas tout à fait vrai. Les armées de Napoléon, au fond, avaient tout de même des charges un petit peu plus lourdes que celles de nos braves légionnaires qui attaquaient Astérix. Mais ça donne néanmoins la mesure de la lenteur des évolutions. Je vous rappelle qu'à l'époque de la Révolution française, en gros, il fallait 8 jours pour les courriers rapides partant de Paris pour atteindre les frontières sud du royaume, soit la frontière italienne, soit la frontière espagnole, et qu'il y avait eu néanmoins des progrès assez importants, puisque 30 ans avant, il fallait une quinzaine de jours. Ces grandes innovations sociales et révolutions technologiques, bon, il n'est pas besoin de vous les rappeler, ce sera d'abord l'extension des canaux qui permettra d'étendre les aires de marché des produits agricoles, la mise en place des transports urbains, la révolution du chemin de fer, le remplacement de la marine à voile par la marine à vapeur, l'apparition de la bicyclette et de l'automobile et du transport routier de marchandises, et enfin, dernière révolution du XXe, celle-là, l'apparition puis la diffusion de masse de l'aviation dans laquelle nous sommes toujours. Toutes ces innovations, au moins dans le domaine terrestre, et ça il faut le savoir, rencontreront de très fortes résistances. Rappelez-vous les propos de Flaubert qui considère que le bourgeois déchoit quand il utilise les transports publics. La lutte permanente des autorités préfectorales pour transformer l'espace public en espace circulatoire, l'espace était alors souvent occupé par des gens statiques, comme on dirait aujourd'hui. Même les observations de Proust au début du siècle sur l'étrangeté de celui qui est un inconnu au village, qu'est-ce qu'il fait là, comment se fait-il qu'il soit là? Bien sûr, les craintes suscitées par les chemins de fer qui expliquent pourquoi un certain nombre de gares sont hors les villes, comme à Orléans et à Tours, ou l'hostilité aux cyclistes et aux automobilistes à leur début. Je vous rappelle que dans la presse, on parlait des cyclistes comme de pédalards, sont aujourd'hui de gentils écologistes. À l'époque, ils étaient un peu considérés comme des chauffards. Je n'hésite pas au plaisir de vous citer quelque chose qui avait été publié par l'Osservatore Romano. Le vélocipédisme est une véritable anarchie dans le monde de la locomotion matérielle, comme l'anarchie est un vrai vélocipédisme dans le monde de la vie sociale. Ça, c'est l'Osservatore Romano. Au début, l'automobile sera évidemment pas mieux servie, et d'ailleurs beaucoup plus dangereuse. Et là encore, pour donner une idée de la violence des conflits, des propos, il y a des villes qui interdisent la traversée de leur... des maires qui interdisent la traversée de leur ville aux automobiles. Et l'Automobile Club, évidemment, prend des positions extrêmement tranchées. Il y a notamment un chroniqueur qui s'appelle le comte Mortimer Maigret. Et il dénonce comme fléau de la route les charretiers, les maraîchers, les enfants et les chiens. Bon, tous ces personnages sont évidemment des obstacles à la circulation des automobiles. Et il faudra attendre 1912 pour qu'on trouve dans l'Automobile Club ce titre qui est quand même relativement intéressant, qui est « On n'écrase pas ». Voilà. Alors, tout cela sera balayé. Balayé, pourquoi ? Pour deux raisons essentielles. La première, c'est que chacune des révolutions s'est traduite par un avantage décisif par rapport à l'état antérieur sur une ou plusieurs des propriétés essentielles des systèmes de transport. Ces propriétés, je vous les rappelle, c'est la couverture spatiale, il faut pouvoir avoir accès facilement aux choses. La fiabilité, l'indépendance par rapport aux conditions climatiques, et là, quelque chose comme le bitume et le macadam sera un progrès considérable par rapport à des routes inondables. La capacité de charge, là par exemple, la voie d'eau donnera un avantage considérable par rapport à la route dans son état antérieur au poids lourd. La vitesse, bien sûr, une valeur centrale. Et enfin, l'autonomie, celle qu'apportera la bicyclette puis l'automobile. En gros, dès lors que la couverture spatiale est assurée, c'est la vitesse qui est l'élément le plus important. La seconde raison pour laquelle tout cela sera balayé, c'est qu'à chaque fois, ces technologies ne transforment pas seulement les façons de se déplacer. Elles transforment beaucoup de choses, nos modes d'occupation de l'espace, nos façons de produire, d'échanger, de consommer. Ce que montre le fait que, en gros, chaque technologie a son apogée modal, va avoir une activité au moins 10 fois supérieure à la technologie précédente. Alors je prends simplement quelques exemples dans le domaine interurbain. Si nous avions le projet aujourd'hui de transporter sur l'Atlantique autant de passagers que les paquebots à leur grande époque, eh bien il faudrait un avion par jour sur les vols entre l'Europe et les États-Unis. Bon, vous savez tous qu'il y en a une cinquantaine. De même, si je prends le rail, sa fonction première, il a eu d'autres fonctions après, mais sa fonction première a été de permettre la diffusion des usages du charbon hors des carreaux de mine. Avant le rail, le prix du charbon rendu à Londres coûtait 5 fois le prix du charbon sorti de la mine. C'est-à-dire que le transport représentait 80% du prix. Ces moyens de déplacement, je l'ai dit, ont beaucoup changé des choses dans les modes de vie, et en particulier le dernier qui a été évoqué, l'aviation, eh bien, est à l'origine du tourisme international de masse. Et comme vous le savez, le tourisme international se positionne comme l'une des premières industries mondiales. Mais c'est toutefois dans le domaine du quotidien que les changements sont les plus visibles, je dirais, parce qu'ils s'inscrivent dans l'espace. Ils s'inscrivent dans l'espace. Qu'est-ce qui change dans nos façons d'occuper l'espace et de vivre nos villes avec l'arrivée de la vitesse? Eh bien, pour l'essentiel, 3 choses. Les transports rapides permettent d'abord la croissance urbaine. Ils permettent ensuite la dédensification des villes. Ils permettent enfin la spécialisation fonctionnelle et sociale des espaces. Pour prendre quelques exemples, les villes du Moyen-Âge, marche à pied dominante, dépassaient très rarement 100 000 habitants, mais pouvaient atteindre 100 000 habitants au kilomètre carré en densité. 5 fois la densité de la ville de Paris aujourd'hui. Avec des populations 10 à 30 fois supérieures, les grandes métropoles d'Europe centrale, avant la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire à l'apogée de l'ère du transport public, auront des densités qui auront déjà fortement décru de moitié ou des 2/3. Depuis, la pénétration de l'automobile dans notre vie courante, la densité des villes a encore décru d'un facteur 2 ou 3. Et les grandes villes du monde qui sont nées avec l'ère de l'automobile, elles sont pour l'essentiel aux États-Unis, des villes comme Denver ou Phoenix, ont des densités qui sont encore 2 ou 3 fois plus faibles que les densités des villes européennes. Donc, permettre à la fois la croissance urbaine, il est plus déraisonnable aujourd'hui d'envisager des villes de 10 à 20 millions d'habitants, permettre leur dédensification, aussi évidemment, et c'est là, ça aura été là un des grands projets du 19e, mais ça nous aide à lire ce qui se passe dans le 20e et aujourd'hui, spécialisation sociale et fonctionnelle des espaces. Bon, vous savez très bien que les percées, par exemple, les grandes, enfin le premier chemin de fer de type urbain, c'est-à-dire la ligne de Paris à Saint-Germain, a été utilisé par les catégories supérieures pour aller établir domicile, je dirais, dans des lieux hors de portée du peuple. Les grandes percées d'Haussmann et ce qu'elles ont transformé dans l'immobilier parisien ont amené les catégories modestes ou moyennes à migrer vers l'Est et au fond, petit à petit, se sont constitués des espaces marqués socialement et on retrouve des processus de ce type-là aujourd'hui, vous le savez très bien. Alors, quelles sont aujourd'hui et dans le monde contemporain les formes que prennent cette transformation urbaine? Je dirais pour l'essentiel deux types de transformations. La première, elle est relativement bien connue, c'est ce qu'on appelle l'étalement urbain. Cet étalement urbain qui fait que les villes croissent par leur périphérie, qui fait que nous ne savons plus, au fond, mettre une frontière bien nette entre ce qui est la ville et ce qui n'est pas la ville. Bon, c'est un élément bien connu et je n'insiste pas. La deuxième forme de croissance urbaine est beaucoup plus subtile, beaucoup moins visible et elle mérite pour cela un petit peu plus d'attention avec le fait que nous disposons aujourd'hui de réseaux rapides. Alors il peut s'agir dans certains cas de trains régionaux, mais il s'agit dans l'énorme majorité des cas d'autoroutes. Prend forme une nouvelle forme de ville qu'on pourrait appeler un archipel urbain régional, c'est-à-dire un ensemble de villes moyennes qui se mettent à partager des ressources, à partager un marché de l'emploi, à avoir un marché de la consommation et des loisirs de plus en plus unifié. C'est ce qu'on appelle en termes fonctionnels une ville. Et ça ne ressemble pas à une ville en termes morphologiques, bien entendu, puisque nous sommes sur une logique plutôt d'archipel. C'est ce qui se passe, par exemple, aujourd'hui en Poitou-Charentes, c'est ce qui se passe en partie en Lorraine. Ce sont des modèles qui ont été, expérimentés avant la France, en particulier en Allemagne et son réseau de villes. Je dirais que là, de plus en plus, il arrive que nous habitions dans une ville et que nous travaillions dans une autre, que nous allions faire nos études dans une autre, faire éventuellement des courses, ou d'une certaine façon, notre vie quotidienne. Alors, c'est évidemment pas vrai de l'Île-de-France, qui est une espèce de méga cité, hein, mais la vie quotidienne dans l'espace régional français se vit de plus en plus à l'échelle de la région. Alors, cette histoire que je vous raconte peut vous paraître un petit peu littéraire, et de fait, elle l'est. Et la question qu'on peut se poser, c'est de savoir s'il y aurait, au-delà de ces approches événementielles, est-ce qu'on peut proposer un modèle formel d'évolution de la mobilité qui colle à peu près aux faits. Bon, un modèle, il vaut mieux qu'il traduise d'une certaine façon la réalité. Alors, d'une certaine façon, la réponse est positive. La réponse est positive et on peut l'exprimer de façon extrêmement ramassée en disant que notre logique de fonctionnement, c'est toujours plus loin, toujours plus vite, dans le même temps. Toujours plus loin, toujours plus vite, mais dans le même temps. Alors, si on cherche un petit peu à creuser ça, on retrouve sur notre chemin un chercheur hongrois qui s'appelait Zalaï, qui a travaillé dans les années 60 dans une institution, comme savaient en faire les grands pays au moment de la guerre froide, c'est-à-dire une institution où travaillaient ensemble des chercheurs de l'Est et de l'Ouest sur des questions totalement sans intérêt. Et donc, il s'était intéressé à ce que faisaient les gens dans le monde communiste et dans le monde occidental de leur temps. Et il s'était aperçu que dans des pays avec très peu d'infrastructures de transport, comme la Roumanie, ou dans des pays avec déjà des autoroutes et un modèle suburbain très affirmé, comme les États-Unis, on passait à peu près le même temps à se rendre à son travail, qui était à peu près de 20 minutes. Alors, Zalaï n'est pas allé beaucoup plus loin, et c'est Zahavi qui a un petit peu formalisé les choses dans les années 70. Zahavi était un chercheur de la Banque mondiale qui travaillait beaucoup dans les pays en développement, et il était confronté à des problèmes de données, d'observation, etc. Et les modèles de transport à l'époque étaient extrêmement sophistiqués, ils exigeaient énormément de données, d'observation. Et Zahavi a cherché quelque chose qui puisse rendre compte des réalités d'une façon un petit peu plus simple. Le modèle qu'il a proposé est le suivant. Je le décris formellement, il est très simple, et puis on le commentera après. Ce modèle qu'il a proposé est de dire, eh bien, au fond, notre objectif à nous, citadins, il est de profiter au maximum des opportunités urbaines. Nous sommes en ville parce qu'il y a une pluralité d'opportunités, d'aménités. Et donc, ce que nous cherchons à faire, c'est à parcourir le plus de distance possible. Mais nous avons deux contraintes. Une première contrainte est une contrainte de budget monétaire. Cette contrainte de budget monétaire, elle est évidemment très active dans les pays en développement. Elle l'est beaucoup moins dans les pays développés. Et cette contrainte de budget monétaire, c'est que nous ne souhaitons pas consacrer plus de 12 à 13% de nos ressources à nos déplacements. Et puis la contrainte de budget temps, c'est que nous sommes bornés en temps à 1 heure à 1h30 de déplacement par jour. Alors ce modèle a beaucoup choqué pour plusieurs raisons. Il a choqué d'abord parce qu'il était simple et que les ingénieurs de transport n'aiment pas toujours les choses simples. Il a choqué aussi parce que, au fond, se dire ce que nous cherchons, c'est à parcourir le plus de distance possible, a beaucoup interrogé les gens. On a l'habitude de penser qu'on cherche au contraire à faire au plus près. Alors, il se trouve que ce modèle colle parfaitement bien aux choses. Je vous en donnerai deux exemples. Ce qu'on peut lui reprocher est moins ce qu'il décrit que la façon dont il le décrit, c'est-à-dire que tout se passe comme si, dans l'expression, la dynamique était chez vous et moi. C'est vous et moi qui souhaiterions parcourir le plus de distance possible. Non, ce n'est pas seulement ça. Ce sont tous les acteurs de l'urbain qui se réorganisent en fonction de la mobilité facilitée. Et je n'ai pas besoin de vous décrire les stratégies de localisation des hypermarchés, des multiplex, des pôles de loisirs et autres, à proximité en général des nœuds d'autoroute, pour que vous voyez bien que tous les acteurs de l'urbain essayent de tirer parti de cette mobilité facilitée, qui était facilitée à une époque par les transports publics, qui l'est aujourd'hui pour l'essentiel par l'automobile. Alors je vous ai dit, ce modèle colle bien au fait. Alors je vais en prendre deux exemples. Le premier, concerne une comparaison internationale de grandes villes du monde. Ces grandes villes du monde sont soit des villes européennes, soit des villes d'Asie développée. Les villes d'Asie développée, c'est Tokyo, Singapour, Hong Kong, soit des villes des États-Unis. Alors, ce que vous voyez sur ce transparent, c'est que entre ces villes, et ça ne vous étonnera pas, il y a énormément de choses qui changent. les distances parcourues dans les grandes villes peu denses américaines sont évidemment extrêmement supérieures aux distances parcourues par personne dans les grandes villes européennes, et nous sommes nous-mêmes parcourons des distances très supérieures à ce qu'on parcourt en Asie. De même, ce qui est développé dans la partie basse, c'est un petit peu l'usage des modes dans ces grandes métropoles en termes de temps. Et bien sûr, les Américains passent l'essentiel de leur temps de déplacement en automobile. Nous équilibrons en Europe un petit peu nos temps de déplacement entre le système automobile, transport public et la marche à pied. Et en Asie, vous voyez que la marche garde un poids tout à fait dominant. Mais ce qui est le plus frappant, c'est tout de même que le temps que nous passons à nous déplacer dans, à l'intérieur de ces périmètres urbains au cours d'une année. Vous voyez que ce temps, eh bien, il est à peu près constant autour de 360-370 heures par an, c'est-à-dire grosso modo une heure par jour. Donc des contextes extrêmement différents, des contextes d'offres de transport extrêmement différents, des contextes de pratiques modales extrêmement différentes, et néanmoins, eh bien, qu'est-ce qui ne bouge pas ? C'est le temps que nous passons à nous déplacer. Si je prends maintenant un autre angle d'attaque, qui est celui de l'analyse chronologique, qu'est-ce qui s'est passé en France depuis une quinzaine d'années dans le domaine des déplacements urbains ? La réponse est simple, tout a changé et presque rien n'a changé. Tout a changé. Tout a changé en termes de pratiques modales, par exemple. La marche à pied a régressé d'un tiers, les deux roues de moitié, la voiture a considérablement progressé. Les motifs de déplacement ont profondément changé. Nous nous déplaçons de plus en plus pour loisirs, un petit peu moins pour le travail. Les distances que nous parcourons ont profondément changé. Nous parcourions, quand je dis nous, c'est l'ensemble des résidents du territoire, de 6 à 99 ans et plus, ces distances parcourues, elles sont passées de 17 à 23 km, c'est-à-dire une croissance tout de même de 30%. En revanche, qu'est-ce qui s'est passé en termes de budget temps ? Eh bien, exactement pareil, nous sommes à 55 minutes, pour être précis, par personne et par jour, aussi bien en 82 qu'en 94, date à laquelle ont été conduites les enquêtes. En Île-de-France même, où on a l'impression qu'il y a des embouteillages, que tout est compliqué. Oui, certes, nous passons plus de temps à nous déplacer que le Français moyen. Nous passons à peu près 80 minutes dans nos déplacements par personne et par jour. Mais, encore une fois, ce chiffre n'a pas bougé depuis 25 ans. Donc, nous avons de très grande stabilité et au fond, on peut dire que le budget temps, c'est le grand ordonnateur de nos comportements, mais aussi des évolutions urbaines. Là où les vitesses ne peuvent pas être augmentées, la ville restera assez compacte. Là où elles peuvent être augmentées, eh bien, nous avons une tendance assez forte à la décontraction. Alors pourquoi, me direz-vous, mais pourquoi donc faisons-nous cela ? Eh bien, c'est très simple, c'est que nous ne nous déplaçons pas pour nous déplacer, pour l'essentiel, sauf dans le domaine du tourisme, mais nous nous déplaçons au fond pour réaliser des activités finales. On dit que le transport est une demande dérivée. Prenons un exemple dans le domaine du logement. Dans le domaine du logement, ce que notre tendance naturelle, eh bien, elle est de disposer de logements peut-être plus spacieux, plus agréables, dans un environnement qui nous convient mieux. Eh bien, la tendance qui s'est produite, c'est que nous avons de plus en plus de mètres carrés. Pour nous les payer, nous allons plus loin du centre des villes. Et cela se traduit en augmentation de distance parcourue, mais nous, d'un autre côté, d'une certaine façon, nous maîtrisons notre budget logement. De même, il arrive que vous ayez une préférence pour un multiplex par rapport à un cinéma de quartier, parce que vous y trouverez plus d'opportunités. Vous, et très probablement certains d'entre vous, vont faire des courses en hypermarché, eh bien parce que nous allons plus loin, mais nous allons pouvoir profiter d'une variété de produits que nous ne trouverions pas dans notre espace de proximité. Tout cela, bien sûr, se traduit par plus de déplacements motorisés. Il y a tout cela, d'une certaine façon, au talon d'Achille. Nous consacrons de plus en plus d'énergie à nos transports, qu'il s'agisse de transports de voyageurs ou de marchandises. Et s'il y a un point qui est clairement établi et est tout à fait incontournable, c'est que dans les conditions des technologies actuelles, la généralisation à l'ensemble de la planète du mode de déplacement occidental serait tout à fait impossible. Alors, avant d'entrer dans les débats prospectifs, cela nous invite à faire un petit tour du monde de la mobilité, à placer quelques ordres de grandeur. Je serai très, très bref, même si on peut avoir des statistiques beaucoup plus fouillées, mais je vais me limiter d'ailleurs au transport de voyageurs. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de la mobilité dans le monde ? Alors, le premier élément, c'est celui qui concerne l'accès à l'automobile. Cet accès à l'automobile, en un mot, je dirais qu'il est beaucoup, beaucoup plus inégal que les richesses disponibles par habitant. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut s'attendre de façon tout à fait raisonnable et tout à fait prévisible à un rattrapage important des pays du monde en développement par rapport à nous. Bon, pour fixer les ordres de grandeur, il y a en gros une voiture pour 10 habitants dans le monde, une pour 2 chez nous, une pour 50 dans le monde en développement, ça veut dire un écart de 1 à 25, alors que les écarts de richesse sont en gros de 1 à 8. Donc un rattrapage très important à prévoir de ce côté-là. La mobilité maintenant, eh bien la mobilité, en fait, en gros, 5000 km par an et par habitant dans le monde, avec, comme vous le voyez, des écarts, là encore, très importants. Mais ces écarts, cette fois, sont à peu près dans l'ordre de grandeur des écarts de richesse. Ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que d'autres modes que l'automobile, en particulier dans les pays d'Asie du Sud-Est, les cyclomoteurs ou les petites motos, dans toute une série de grands pays, les transports publics, jouent un rôle qui est infiniment plus important que chez nous. Et c'est ce qu'on va voir là sur le troisième élément qui compare les usages des modes, cette fois, dans les pays développés, dans l'ensemble du monde et dans les pays en développement. Vous voyez que, bien sûr, nous, les modes, et en particulier l'automobile, les modes les plus rapides sont utilisés par les pays qui, en gros, peuvent se les payer, et que au fil du développement, eh bien, nous utilisons des modes de plus en plus rapides. En gros, nous utilisons l'argent dont nous disposons pour acheter de la vitesse. Ce que je dis là est évidemment aussi valable en historique dans les pays développés et est valable pour les marchandises. On est tout à fait frappé de voir, par exemple, si vous regardez entre les modes lents et les modes rapides, quelle est la valeur à la tonne transportée. Aujourd'hui, une péniche, ça vous transporte des produits qui valent 800 francs à la tonne. Un poids lourd, ça vous transporte des produits qui valent 10 000 francs à la tonne. Un avion, ça vous transporte des produits qui valent 500 000 francs à la tonne. C'est-à-dire que chaque fois que votre production va être plus riche, que sa valeur à la tonne va augmenter, il faut vous attendre à des transitions modales, et c'est un petit peu ce qu'on voit ici. Alors j'ai dit qu'il y avait évidemment un gros problème, un gros hic, qui concerne, soit on peut le prendre à travers les consommations pétrolières, ou on peut le prendre à travers les émissions de gaz à effet de serre. Entre les deux, il y a un rapport extrêmement étroit. Voilà l'énergie qui est consommée dans le monde. Bon, les chiffres globaux vous disent peut-être pas grand-chose. Retenez qu'un habitant de la planète consomme à peu près, pour l'ensemble des transports, qu'ils soient de voyageurs et de marchandises, ce que votre voiture consomme en 3 mois. C'est l'ordre de grandeur. Alors j'en viens, si vous le voulez bien, au dernier point qui est eh bien, le futur, après un petit tour d'horizon du passé. Le futur, je le dis et je le répète, il est évidemment à une croissance de la mobilité, il est à une croissance de la mobilité forte dans les pays, notamment forte dans les pays en développement. En gros, l'image du monde qu'on peut se faire en 2020, c'est que la mobilité, de chaque homme aura doublé, et comme il y aura évidemment un petit peu plus d'hommes et de femmes sur la planète, en gros, tout cela aura été multiplié par 3. Alors, parmi les questions qu'on peut se poser concernant le futur, je dirais qu'on peut en retenir pour l'essentiel 2. La première, c'est que ce qu'on a vu à travers l'histoire, c'est une succession de révolutions technologiques dont j'ai oublié de vous dire qu'elles sont produites en gros à peu près tous les 50 ans. Alors, premier type de question, est-ce qu'on doit s'attendre à la diffusion de masse de l'aviation date à peu près d'une cinquantaine d'années. Il y a eu des pionniers avant, mais est-ce qu'on doit s'attendre à un nouveau mode, à quelque chose de miraculeux dans les années à venir? La deuxième question, c'est est-ce qu'avec ce qu'est notre système de transport aujourd'hui, eh bien, il va vers des crises majeures ou il n'y va pas? Alors, pour répondre à la première question, j'irai, nous avons maintenant conquis tous les milieux et dans la plupart des milieux, les vitesses maximales sont atteintes, c'est-à-dire le mur du son pour l'avion, 130-140 km/h sur autoroute, on n'en sortira pas, les TGV au-delà de 500 km/h posent des problèmes considérables. Donc de ce côté-là, je dirais, on est sur une perspective de vitesse limite atteinte, ce qui ne veut pas dire, bien entendu, que l'écart entre les vitesses effectives et les vitesses limites ne peut pas se combler. Et là, on verra tout à l'heure et dans 5 minutes qu'il y a probablement des solutions tout à fait importantes. Si j'essaye de tracer le portrait robot de ce qu'il nous faudrait au terme des propriétés fondamentales des systèmes de transport, ces propriétés fondamentales d'aujourd'hui sont vitesse, capacité, autonomie. Et si je m'abstrais du champ strict des transports, alors il n'y a pas de doute que le système qui aujourd'hui permet des progrès considérables en termes de vitesse, des progrès considérables d'autonomie et des progrès considérables en termes de capacité, nous le connaissons, il s'appelle Internet, il n'est pas du domaine des transports, il est du domaine des communications. Ayant dit cela, il faut se rappeler les leçons de l'histoire, et la leçon principale de l'histoire est que chaque nouvelle technologie a d'abord créé son propre marché avant de manger le marché des autres. C'est-à-dire que la mobile Internet se développera et satisfera de multiples et de croissants usages, mais ne croyons pas pour autant qu'au fond, il enrayera la croissance des systèmes de transport, ce probablement inexact. Alors, nos systèmes de transport ont donc un avenir. La mobilité des hommes et des biens doit encore croître, mais ce que l'on sait mieux aujourd'hui qu'hier, c'est qu'elle doit non seulement croître, mais embellir, parce que les transports pose un certain nombre de problèmes à la société. Parmi ces problèmes, les problèmes de bruit, de pollution, de congestion, d'insécurité routière, d'effet de coupure et, on l'a déjà dit, de consommation pétrolière, mais aussi les problèmes d'accessibilité aux aménités urbaines des personnes qui n'ont pas accès à l'automobile. En gros, le programme du prochain siècle, ou en tout cas des 20 premières années du prochain siècle, pourrait être résumé dans des transports plus propres, plus sûr, beaucoup moins gourmand en pétrole, plus fiables, plus rapides là où ils sont lents. Ce sont là les défis du prochain siècle. Alors, dernière idée, en prenant là encore deux exemples, l'un dans le passé récent et l'autre dans l'avenir, la dernière idée, me semble-t-il, est que l'innovation technologique sera nécessaire, mais insuffisante. La régulation par les pouvoirs publics de tout niveau, depuis le village jusqu'à ceux qui devraient faire appliquer les accords de Kyoto, sera nécessaire, mais insuffisante, et que seules des synergies entre ces deux registres seront efficaces. Un exemple dans le passé, les motoristes ont bien travaillé, ils ont fait des moteurs qui consomment à peu près un tiers de moins. Vous ne vous en apercevez pas dans votre vie courante, moi non plus, et on doit donc s'interroger sur les raisons qui font que, eh bien, il y a quelque chose qui se passe entre l'usine où tout va mieux et la vie courante où on ne sent pas des progrès importants. Les causes de cette différence, elles sont simples. Les pouvoirs publics, qui sont légitimement soucieux en matière de sécurité des véhicules, ont contribué à faire prendre du poids aux voitures par des règles qui protègent les occupants après les chocs. Ensuite, parce qu'aucune obligation n'assure la moindre cohérence entre la vitesse de pointe des véhicules et les vitesses possibles sur autoroute, eh bien, les consommateurs achètent des voitures qui vont de plus en plus vite. Enfin, les circulations dans les endroits les plus congestionnés, les zones urbaines en particulier, n'ont pas été fortement dissuadées. Pour prendre simplement un exemple, et un exemple qui ne sera pas franco-français, une des voitures qui consomme le moins aujourd'hui, c'est la Lupo TDI. Vous achetez sa version 45 kW. Elle consomme 3,6 litres en ville. La même voiture, le même look, le même gabarit, tout ce que vous voulez, en version 75 kW, consomme 9,3 litres au 100. Mais elle peut aller plus vite. Qu'aurait été une action cohérente? Une action cohérente serait bien sûr l'interdiction à la vente des voitures qui dépassent les vitesses limites de trop. Ça aurait surtout été une recherche de sécurité routière plus fondée sur l'évitement de l'accident que sur l'évitement de ses conséquences en transformant les voitures en chars d'assaut. Cet évitement de l'accident, nous savons aujourd'hui le faire par des moyens télématiques, des moyens d'informatique embarqués, par dialogue entre l'infrastructure, les véhicules et les véhicules et leurs voisins. C'est par exemple les radars anti-collision, tout ce qui concerne le contrôle latéral et bien d'autres choses encore, j'en passe et des meilleurs. Dans l'avenir, idem, ce dont nous pouvons être certains, c'est de deux choses. C'est que la technologie aujourd'hui va nous offrir des véhicules qui pourront soit consommer beaucoup moins, soit reposer sur des énergies alternatives, des piles à combustible, des hybrides. Je vous passe tous les détails, mais on sait aussi que ces véhicules coûteront 20 à 30%, voire 40% plus cher. Deuxième idée, nous savons que les électroniciens savent faire des packages qui permettront un dialogue remarquable entre l'infrastructure, le véhicule, la chaussée, les véhicules voisins, etc., qui, au fond, à horizon de 20-30 ans, pourraient amener, là où il y en a besoin, au concept de route automatisée qui vous permettrait, d'une certaine façon, de prendre le volant sans le prendre. Tout cela peut-il pénétrer facilement aujourd'hui les choses? La réponse est non s'il n'y a pas d'intervention institutionnelle. Qui d'entre vous ira acheter une voiture avec une motorisation quelque peu exotique pour un prix supérieur si vous n'avez pas pu faire l'essai à travers des flottes qui vous permettent d'essayer les choses? Si les pouvoirs publics ne garantissent pas des bons réseaux de distribution en matière de carburant, etc. De même, en matière de sécurité ou de lutte contre les congestions, toute cette informatique embarquée aujourd'hui, quasiment disponible, mais il est bien clair que le très grand progrès, ce n'est pas que vous, vous ayez ça à bord, c'est que tout le monde l'ait. Et que ça, ça sera aussi du rôle, de la responsabilité des pouvoirs publics, d'essayer petit à petit d'inventer d'abord des fonctions qui font dialoguer l'infrastructure et vous-même au service de votre propre sécurité, pour que petit à petit les gens s'acclimatent et que nous puissions dialoguer d'une voiture à l'autre. Voilà, simplement sur ces deux exemples, ce que je voulais vous faire passer, c'était simplement cette idée que l'innovation technologique a aussi besoin d'institutions et d'institutions qui fonctionnent bien pour pénétrer dans les sociétés. Je vous remercie.
Vous venez de terminer en faisant remarquer que les institutions, les pouvoirs publics ont quelque chose à faire pour introduire les capacités des nouvelles technologies, pour faire un changement dans la réalité existante. Mais mon impression, c'est que les pouvoirs publics ne se remuent pas beaucoup, même trop peu. Mais je me demande si avant les pouvoirs publics, ce n'est pas le public lui-même, c'est-à-dire nous-mêmes, qui avons à faire connaître nos desiderata, notre volonté. Quand je vois que nous supportons sans broncher les 10 000 morts annuels sur les routes, alors que pour une seule personne qui court un risque dans une prison dans je ne sais quel endroit du monde, nous sommes prêts à faire des manifestations, je vous passe l'impression d'hypocrisie que ça me fait. Quand nous voyons que nous supportons de nous comporter comme des bancs de poissons dans les transports en commun ou même comme des sardines en boîte dans le métro, dans la rame elle-même, je me dis où sont nos désirs, où est notre volonté. En fait, nous ne faisons que subir notre propre peut-être maladie mentale, ou je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. Quelle est votre impression ?
Oui, je crois que, bon, enfin, il faut quand même peut-être rappeler que bon, le confort des transports publics s'est néanmoins amélioré. Hein. Je ne dis pas qu'il est idéal aujourd'hui, mais enfin bon, il y a une époque où il y avait des portillons qui bloquaient l'accès aux quais parce que les quais étaient bourrés. Et que par ailleurs, en matière de sécurité routière, 8 000 morts par an, c'est 8 000 morts de trop. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 25 ans, il y en avait 17 000 pour des circulations qui étaient deux fois plus faibles que celles d'aujourd'hui. Cela dit, je crois que vous avez tout à fait raison de dire que quand même, bon, on sait qu'aujourd'hui, les progrès de sécurité routière, quand il y en a, c'est 50 morts par an. Bon, il n'y a pas de quoi... Il n'y a pas de quoi monter au plafond. Hein, mais ça, c'est clair. Donc là-dessus, bon, vous dites nous sommes résignés. Bon, oui, peut-être. Je crois là aussi que bah, peut-être que dans ce domaine-là, nous, en tant que consommateurs, usagers ou je ne sais quoi, manquons peut-être aussi un petit peu d'institutions efficaces. Mais aussi, d'un autre point de vue, je voudrais quand même souligner que il me semble que nous avons des visions qui sont toujours des visions dans le prolongement des tendances traditionnelles, hein, et que souvent ces visions-là, quand elles permettent d'améliorer les choses, le permettent à des coûts extrêmement importants. Hein, c'est faire plus d'autoroutes, baisser les limitations de vitesse, faire plus de métro, faire ceci. Bon, le toujours plus peut peut-être être un peu pensé comme un toujours mieux aujourd'hui, en particulier avec l'essor des nouvelles technologies. Voilà.
Bonjour monsieur. Bonjour. 2 années Paris-New York, c'est formidable. Ça a été fait par le Concorde, je crois. Vous pouvez peut-être nous raconter un petit peu l'étymologie, enfin, qu'est-ce qui s'est passé pour Concorde, parce que je considère que c'est un truc que les pouvoirs publics, justement, ont trop négligé. À une certaine époque où c'était un mec qui aimait beaucoup l'Afrique. Non ? Non, c'était pas du temps de Giscard, c'était avant. Excusez-moi.
Bon, écoutez, je connais pas l'histoire particulière de Concorde. Il est clair que... Il est clair que bon, tout ce qu'on peut dire, c'est que Concorde n'a pas été un franc succès et que la raison de fond, c'est qu'on a joué la vitesse contre la capacité et contre l'énergie. Ce qu'il faut à un système de transport, c'est d'être bon sur plusieurs fronts. Et Concorde n'était bon que sur un front.
Mon prédécesseur disait que les statistiques, c'était le meilleur moyen de mentir ou de camoufler la vérité. Dans les statistiques que vous présentez, les camemberts, etc., etc., je me demande si les proportions relatives des transports en commun et des automobiles et transports aériens sont dues à une évolution normale ou sont dues à la différence dépensée par les fabricants, etc., enfin, en marketing, en lobbying. Quand on pense aux sommes dépensées et pour améliorer la commercialité des voitures et des avions et pour promouvoir le transport en voiture et en avion et celles dépensées pour les mêmes raisons dans les transports en commun, on se demande si on est là dans un effet de cause ou dans un effet d'effet.
Je vais peut-être vous répondre brutalement, puisque votre intervention est peu nuancée. Nous dépensons, quand je dis nous dépensons, c'est-à-dire en termes de dépenses publiques, nous dépensons à peu près 50 milliards de dépenses publiques par an en aide au transport public. L'automobile rapporte à peu près 150 milliards de francs aux finances publiques. Ces deux chiffres ne vont évidemment pas dans le même sens. Hein. Il y en a un qui est un moins, l'autre qui est un plus. Alors, bon, je crois qu'il faut garder présent à l'esprit un dernier point, c'est que il n'y a pas de lobby qui vous oblige à prendre l'avion ou à prendre votre voiture. Hein ? Pardon ? Ou à prendre le TGV. Le TGV a pratiquement mangé la moitié de la clientèle antérieure de l'avion. Non, mais l'avion et le TGV sont tous les deux des trafics en commun, à ma connaissance. Hein. Je ne pilote pas. Bon. Mais bon, un jour, le TGV sera privé, rassurez-vous. Hein. Non, mais... Je crois que là, on n'est pas sur une propriété du TGV ou de l'avion. On est sur une propriété toute simple. C'est que entre Paris et Lyon, pour vous et moi, c'est beaucoup mieux de prendre le TGV. Et l'avion s'est révélé moins bon. C'est une circonstance qui ne peut pas se reproduire dans toutes les circonstances. Hein ? Et il y a des marchés, et il se trouve que les consommateurs, que nous sommes assez fréquemment, préfèrent les meilleures solutions aux plus mauvaises. Et quand il y en a qui sont franchement meilleures, elles s'imposent. Et puis voilà. Et donc, si nous savons effectivement concevoir, il est très clair, par exemple, que la ligne A du RER rend à beaucoup de gens un service très supérieur à l'automobile pour des déplacements qui concernent la capitale. En revanche, l'autobus numéro 3XX, peut-être, lui, ne rend pas un service supérieur à l'automobile. Et dans ce cas-là, eh bien, c'est l'automobile qui est utilisée. C'est aussi simple que ça.
Oui, bonjour. Mon propos rejoint un petit peu ceux des premiers intervenants. Certes, le développement des transports aériens, maritimes et terrestres et leur densification, tant au plan collectif qu'individuel, ont indiscutablement facilité et considérablement amélioré la circulation des marchandises et la mobilité des hommes. Toutefois, les innovations technologiques, telles que par exemple les autoroutes ou les voitures toujours plus rapides, n'ont pas été sans conséquences sur l'environnement et la santé, voire la sécurité de l'homme. Vouloir aller toujours plus vite à un prix à payer, la vitesse devient dangereuse, parfois mortelle. On se demande donc pourquoi les industriels ne tiennent pas toujours compte de la pollution de l'environnement et de la sécurité du citoyen dans leur course effrénée aux dividendes de leurs innovations technologiques en matière de transport. Merci.
Oui, alors là-dessus, il y a au moins un point que je partage avec vous, c'est que je comprends très bien les motivations des industriels à faire des véhicules toujours plus puissants et plus rapides. En revanche, je ne comprends pas pourquoi les pouvoirs publics, et en particulier au niveau européen, semblent bloqués à l'idée qu'on pourrait auto-limiter la vitesse de pointe des véhicules aux alentours de 160 ou 170 km/h. Alors, concernant maintenant ce qui concerne les pollutions, là, je dirais simplement que, bon, là, il y a eu plutôt convergence entre des exigences de pouvoir public, qui sont tout de même des exigences relativement fortes, et ce qu'ont fait les industriels. Bon, en gros, et pour dire les choses simplement, sur les polluants réglementés, les émissions des voitures ont à peu près été divisées par 10 depuis qu'existent des réglementations. Une partie du problème est que pour s'adapter aux réglementations, on change les mécanismes de combustion, on change un certain nombre de propriétés des carburants, et qu'il est probable qu'on aura à faire des activités réglementaires sur d'autres polluants à l'avenir, parce que on précise de plus en plus les choses, les études sont de plus en plus affinées, etc., etc. Mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu d'effort dans ce domaine-là.
Oui, vous avez rappelé tout à l'heure en introduction ce mot de 1912, je crois, on n'écrase pas. Je me demande si aujourd'hui, ce n'est pas l'inverse, on écrase. Et je voulais vous demander, vous avez eu l'air de dire que les 8 000 morts par an, bah, c'est irréductible. De toute façon, on sera toujours à 8 000 morts, ça va. Enfin, presque, vous avez... Est-ce que, comme quelqu'un qui réfléchit sur la question par vos différentes activités, est-ce que vous avez une explication, un début d'explication, pourquoi cela en France? Parce que les pays voisins, l'Angleterre et l'Allemagne, par exemple, ont des parcs comparables. Parc automobile, c'est le nombre total d'automobiles dans le pays. Et ils font deux fois moins de morts. Est-ce que vous n'êtes pas psychanalyste, je sais, mais est-ce que vous avez, vous, un début d'explication pour cette affaire?
Oui, alors, le chiffre que vous citez pour le Royaume-Uni est parfaitement exact. Et le Royaume-Uni a une très longue tradition de sécurité qui remonte très largement avant l'automobile. Déjà, quand vous aviez des voyageurs anglais en France au XIXe siècle, ils étaient effarés par l'insécurité des voitures à chevaux en France. Et cette très longue tradition, elle est liée au fait que, alors pour là, je ne vais pas nécessairement prêcher pour ma paroisse, mais que, pour une paroisse, mais elle est très liée au fait que les systèmes de transport sont pour l'essentiel gérés par des urbanistes au Royaume-Uni et gérés par des ingénieurs en France. Et ça change beaucoup dans la vision des choses. Et bon, dites-vous ça quand vous essayez de traverser à Londres et à Paris, vous avez l'explication. C'est très clair.
Bonjour. Je crois que je suis d'accord avec tous les intervenants. C'est même pas la peine de reprendre leurs questions parce qu'en fin de compte, c'est exactement ce que je voulais poser comme question. Mais j'aimerais bien poser la question d'une autre façon. Vous avez deux ouvriers qui mettent 8 heures pour construire un mur. Combien de temps mettraient 7200 ouvriers pour construire le même mur ? Théoriquement, c'est très, très facile à répondre, c'est 8 secondes. Donc, et absurde à la fois, parce qu'il y a un problème de proportionnalité. Et ce problème de proportionnalité existe actuellement dans le problème que vous évoquez. Nous avons un espace humain, c'est un domaine fini, mais la croissance humaine, 50 millions par an dans le monde. La vitesse n'a aucune contrainte, comme vous l'avez dit, parce que l'argent, la compétitivité, la croissance exporte la vitesse en tant que dotation de facteurs et donc de production dans le monde, sinon il y aurait un problème. Pour les pays sous-développés, j'entends. Donc la tendance de mobilité devient de plus en plus immobile à cause de ces problèmes de proportionnalité. L'échelle humaine dans un espace où on trouve cette mobilité physique et informationnelle, si j'ose m'exprimer ainsi, devient de plus en plus immobile. Donc je ne vois pas vraiment d'issue que la destruction ou des catastrophes pour pouvoir remédier à cette constance de demande. Et en plus, vous avez parlé d'Internet, oui. Je suis aussi...
Je peux simplement vous répondre, parce que je crois que vous partez sur une optique relativement malthusienne, où au fond, la planète ne nous donnerait pas la place d'exister. Bon, je crois que l'histoire a montré quand même qu'on est passé de quelques centaines de milliers d'hommes à une époque à 6 milliards aujourd'hui, et que... Bon, je ne dis pas que tout s'en porte bien, mais enfin, la limite physique n'est pas la limite, n'est pas la vraie limite. Et par ailleurs, concernant les déplacements, je réaffirme haut, fort et solennellement que nous nous déplaçons de plus en plus vite, et ce, dans tous les pays. C'est-à-dire que nous n'allons pas vers l'immobilité.
Dernière question.
Pardon. Ça marche ? Je suis là. Nous avons parlé du. Vous avez parlé d'Internet. Nous venons d'entrer dans le troisième millénaire, et je me demandais si cette entrée dans le troisième millénaire n'allait pas nous apprendre à transporter autre chose que l'homme dans son entier. C'est-à-dire que jusqu'à présent, nous avons transporté l'homme et son enveloppe corporelle. Aujourd'hui, ne sommes-nous pas en train d'apprendre à transporter uniquement ce qu'il est nécessaire de transporter ? Je parle par exemple de la voix ou de l'image, et peut-être d'autres sens que nous pourrions apprendre à téléporter. Et je pense au démembrement de la personne et de ses... Et n'apprendre à transporter que ce qui est nécessaire à communiquer dans l'individu. Je ne parle pas des marchandises, bien sûr, mais chez l'individu. Pour économiser justement ce transport qui est en fait encombré par la masse. C'est la masse des individus qui est difficile à transporter, mais si nous, par exemple, nous envisageons de transporter uniquement que la voix, dans certaines circonstances, nous résolvons par le même la quantité à transporter, la pollution, les difficultés que nous avons à transporter un homme qui n'utilise qu'une partie de ses capacités. Que pensez-vous de ça ?
Non, mais je pense que c'est effectivement... très très clair que je dirais une part croissante de la communication globale, de l'échange global entre les hommes, sera assurée en tant qu'échange d'informations par ce qui a été le téléphone, ce qui sera demain Internet et compagnie. Là où je vous suis qu'à moitié, c'est quand vous dites tout ça pourra être mis au service de moins de pollution, moins de ceci, moins de cela. Je dirais oui et non. Enfin, oui, au sens où je crois qu'un des enjeux du siècle sera effectivement que la communication virtuelle ressemble de plus en plus à la communication physique et qu'on puisse faire des tas de choses ensemble virtuellement. Je dirais non d'une certaine façon parce que si vous voulez, vous avez le choix entre le Grand Canyon ou un dispensaire de Mère Teresa selon vos goûts, mais ça, vous aurez toujours besoin de l'expérience matérielle et de l'expérience physique. Et ce que nous a appris l'histoire, c'est que ça continue à croître et on ne voit pas pourquoi ça dépérirait avec un nouveau moyen de com, quel qu'il soit. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, on a besoin d'un contact physique avec un environnement. On peut tous prendre des vacances virtuelles, mais on préfère les réelles, quoi. Bon, voilà.